le berceau de l'histoire. Jean-Pierre Constantin.
Bonjour à tous. Notre émission aujourd'hui est consacrée à Jérusalem. Jérusalem, ville de tous les fantasmes et de tous les enjeux. Pour en parler, j'ai invité l'un des meilleurs spécialistes du sujet, Vincent Lemire. Vincent Lemire, vous êtes historien, vous êtes professeur à l'Université Paris-Est. Vous avez dirigé un ouvrage collectif sur l'histoire de Jérusalem, « Une ville-monde », comme vous l'appelez, paru chez Flammarion. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre remarquable sur l'histoire du quartier maghrébin de Jérusalem, on va en parler aussi, et le co-auteur d'une superbe bande dessinée sur l'histoire de Jérusalem. Co-auteur avec Christophe Gauthier, qui a fait des dessins, très jolies bandes dessinées que je recommande à tout le monde. Commençons par le commencement. Quand est-ce que Jérusalem a été fondée? Par qui et pourquoi?
Alors c'est une série de paradoxes Jérusalem, et c'est cet empilement de paradoxes d'ailleurs qui fait peut-être une partie de l'intérêt et des tensions qui s'y trament. Rien n'est naturel, rien ne va de soi dans l'histoire de Jérusalem. Le premier chapitre de la bande dessinée qu'on a réalisée avec Christophe Gauthier est intitulé « Au commencement était le temple ». Cette petite ville perdue au milieu des montagnes du Proche-Orient, sur une ligne de crête, à l'écart des grandes routes commerciales, à l'écart de tout point d'eau, n'avait pas grand-chose pour elle. Et c'est peut-être une partie de la réponse. Un certain Ernest Renan s'est interrogé. Pourquoi est-ce que David, qui était peut-être un roi, peut-être un chef brigand, peut-être un peu les deux, pourquoi est-ce que David s'est emparé de Jérusalem alors qu'il était natif de Bethléem, et alors qu'il avait déjà en sa possession Hébron, Hévron, Al-Khalil, la ville de l'Alliance, la ville qui conservait les dépouilles, la mémoire des dépouilles, en tout cas, des patriarches, d'Abraham, Sarah, etc. Et Renan a une réponse paradoxale, mais extraordinaire, et qui pourra peut-être nous aider pour comprendre toute l'histoire de cette paradoxale ville sainte. Renan dit « David avait besoin d'une ville qui n'eut pas de passé pour fonder justement une nouvelle dynastie ». Donc l'histoire de Jérusalem commence par ce paradoxe, c'est une ville comme une autre, dont David s'empare, peut-être aux alentours de moins 1000, donc il y a à peu près 3000 ans, pour y apporter quelque chose, qu'on appellera plus tard l'Arche d'Alliance, même si d'autres traductions sont possibles, et ce quelque chose sera, on va dire, la pierre de fondation des trois religions monothéistes. C'est là que le destin de cette petite bourgade bascule définitivement.
Donc Jérusalem, disons vers moins 1000, 10e siècle avant Jésus-Christ, devient le royaume de David.
Voilà, le royaume de David, sachant qu'à l'époque, un royaume, ça n'est pas si précis qu'aujourd'hui, ça n'est pas des frontières, hein, c'est des zones plus ou moins contrôlées, c'est des villes qui font alliance. Ce fameux roi David, on en a une trace archéologique sur une stèle, hein, la stèle de Mécha. Alors je l'ai représentée aussi dans la bande dessinée. C'est une très belle stèle noire. Et le roi Mécha, en fait, se gargarise d'avoir réussi à s'emparer d'une partie des possessions de la descendance de la maison de David. Donc vous voyez, c'est une trace très indirecte, en fait. Hein, c'est la seule trace réelle. C'est une trace très indirecte. Mais voilà, quelqu'un qui se prénommait peut-être David a sans doute fondé une dynastie, une maison, comme on disait à l'époque. Et il en est fait mémoire, il en est fait mémoire dans les siècles qui suivent. Mais évidemment, ça n'est pas David qui fait véritablement le destin de Jérusalem, c'est son fils, Salomon. On inverse parfois David et Salomon, parce qu'on voit toujours David comme quelqu'un de plus jeune et Salomon comme un roi très sage. Salomon est bien le fils de David. Et dans les Écritures, il est dit que David ne pouvait pas fonder le temple, parce qu'il avait trop de sang sur les mains, parce qu'il avait, voilà, il avait trop souvent péché. Et donc, ce rôle va être dévolu à son fils, à Salomon, le roi sage, modèle de toutes les royautés, modèle de la justice jusqu'à aujourd'hui. Et c'est Salomon donc, qui va construire autour de cet objet que David avait apporté, qu'on appelle l'Arche d'Alliance, mais qui était sans doute sous un bout de tissu, le fameux tabernacle, va construire en pierre, en dur, une maison pour Dieu, un temple. Et c'est ce temple, en fait, qui va devenir le pivot matériel, topographique, symbolique de l'histoire de Jérusalem, y compris de son histoire chrétienne, puis de son histoire musulmane.
Donc, au départ, Jérusalem est une ville à la fois sainte et en même temps une capitale politique. Les deux vont ensemble.
Oui, il y a trois moments dans l'histoire de Jérusalem. Il y a effectivement le royaume de David, le royaume d'Israël. On a, comme vous l'avez dit, une conjonction de la fonction politique et religieuse. On a le royaume latin croisé au 11e, 12e siècle. Et puis on a aujourd'hui Jérusalem déclarée capitale de l'État d'Israël. Mais donc c'est très peu, en fait, hein, dans l'histoire de cette ville. La plupart du temps, Jérusalem est en fait plutôt une ville de province, une ville qui est gouvernée dans un contexte impérial. Hein, elle est une des villes d'un ensemble, d'une entité impériale. L'historien que je suis peut constater que ça lui va beaucoup mieux d'être gouverné en contexte impérial, parce que c'est vrai que cette conjonction, cette confusion du politique et du religieux est très difficile à Jérusalem, d'autant plus quand soit différentes factions du judaïsme vont s'affronter, à l'époque gréco-hellénique, etc. On a, soit quand différents monothéismes vont s'y affronter. Mais vous avez raison, à cette époque-là, Jérusalem est bien la capitale d'un royaume. Hein, elle est bien à la fois un siège politique et à la fois, évidemment, le lieu du temple unique, du Dieu unique.
Est-ce qu'elle était déjà perçue à l'époque comme une ville sainte ? Est-ce qu'elle était considérée comme un lieu saint ?
Elle est considérée à l'époque comme la ville du temple unique, du Dieu unique. Mais des découvertes archéologiques très récentes, à quelques kilomètres à l'ouest de Jérusalem, nous ont fait comprendre que, au moment où cette fameuse Jérusalem salomonienne magnifiait son Dieu unique et le temple du monothéisme, en tout cas tel que les textes postérieurs l'ont raconté, une ville bien plus grande que Jérusalem, bien mieux pourvue en eau, accueillait encore des temples polythéistes pendant assez longtemps. Et alors ça, c'est une découverte d'il y a à peine une dizaine d'années. Hein.
Et cette ville s'appelait comment ?
C'est la ville de Motsa. C'est la ville de Motsa, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem. Sur l'autoroute aujourd'hui, quand on fait Jérusalem-Tel Aviv, c'est juste en contrebas de l'autoroute, immédiatement. Motsa, ce sont des fouilles absolument gigantesques qui, depuis 10 ans, nous ont fait découvrir une ville à peu près de l'époque de la Jérusalem salomonienne, bien plus grande que Jérusalem, et une ville polythéiste. Ce que les historiens, d'une certaine manière, ça nous rassure, nous
autres historiens. Et c'était à la même époque, c'est-à-dire que les deux villes ont coexisté.
Les deux villes coexistent et apparemment harmonieusement, et donc. Ça confirme ce que l'on savait, c'est-à-dire que cette fameuse apparition du monothéisme, soi-disant définitive et absolue, etc., ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu un tuilage. Jérusalem était bien la ville monothéiste et les prêtres, etc., la défendaient de cette manière-là et on n'avait pas droit d'y pénétrer de telle ou telle façon. Enfin, c'est là qu'elle accède effectivement, comme vous dites, à ce statut de ville sainte. C'est pas seulement la ville des lieux saints, c'est la ville elle-même qui est sainte, mais tout à proximité, une ville encore polythéiste. Et là, c'est sans doute celle d'ailleurs qui nourrit en grande partie Jérusalem, et ça ne pose pas de problème.
Ce royaume d'Israël antique, il a existé pendant combien de temps ? Qu'est-ce que nous savons exactement ? Et quelles sont nos sources ? Vous avez parlé d'archéologie. On prend beaucoup la Bible comme source. Quelle valeur historique donner au texte biblique ? C'est une question qui revient souvent.
Bien sûr. Alors, c'est une question polémique parce que aujourd'hui, dans le contexte israélo-palestinien actuel, la Bible est utilisée comme une arme idéologique et peut-être presque parfois, certains disent, comme un titre de propriété pour certains colons israéliens qui veulent s'approprier une partie de la Cisjordanie, qu'ils appellent la Judée-Samarie, enfin en faisant des recollages comme ça de toponymies qui sont beaucoup plus que des opérations intellectuelles et et scientifiques et qui sont véritablement des opérations d'appropriation territoriale. Donc c'est polémique. Et on ne peut pas contourner ce problème-là. En même temps, qui aurait l'idée de travailler sur la ville d'Athènes, par exemple, et d'essayer de comprendre l'architecture antique d'Athènes sans lire la mythologie grecque ? C'est impossible. On n'y comprendrait littéralement rien, ni sur les orientations, sur les axes, est, ouest, le soleil levant, couchant, l'acropole, l'agora, le boulotérion, tout ça. C'est impossible. On serait aveugle. Donc, ça, c'est l'autre pôle en face. Donc moi, en historien, je dis, la Bible est un texte qui a structuré les idées, les pensées, les utopies de cette époque-là, qui vient de loin, qui va loin, hein, on sait bien, qui puise aussi en Mésopotamie, qui puise dans des mythologies proto-bibliques, tout ça on le sait, et puis qui va aller plus loin, qui va aller dans les christianismes, les islams, et y compris d'autres traditions. Mais c'est la matrice idéologique de cette époque, et c'est celle qui agit les hommes et les gouvernants et les bâtisseurs. Donc si on ne lit pas la Bible, on ne comprend pas Jérusalem. Mais on doit la lire, évidemment, comme on lirait, par exemple, de la mythologie grecque.
Reprenons un petit peu le fil de l'histoire, le cours de l'histoire. Donc cet état de David et de Salomon a existé, vous ne m'avez pas dit pendant combien d'années, combien de temps a-t-il
duré ? Franchement, les chronologies de David et de Salomon, je ne vais même pas vous les donner parce que ça, pour le coup, c'est vraiment des chronologies mythologiques. La seule chronologie historique, c'est plutôt la royauté asmonéenne. Hein, donc là où, et d'ailleurs même dans l'histoire israélienne, dans l'historiographie israélienne, c'est 80 ans. Les Asmonéens, c'est un moment, c'est plutôt, on est au 8e siècle avant, hein, et c'est un moment de stabilité, où on a là des royaumes qui commencent à ressembler à ce que nous appelons des royaumes, et c'est 80 ans. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a des hommes politiques en Israël aujourd'hui, dont un certain Naftali Bennett, qui est plutôt à la droite de la droite, et qui alerte souvent, c'est intéressant, qui alerte souvent ses compatriotes en disant le dernier épisode d'autonomie politique d'Israël sur cette terre a duré 80 ans. Nous en sommes à 75 aujourd'hui. Ils ont fêté le 75e, 76e anniversaire de l'État d'Israël. Et attention, hein, il y a un peu de kabbalistique là-dedans, attention, peut-être que des choses nous menacent. Et en plus, Bennett va jusqu'à dire l'ennemi est intérieur. L'ennemi est intérieur.
Et les ennemis d'Israël, le Hamas en particulier, utilisent également cette rhétorique, mais on va en reparler. Faisons, donc on est au 8e siècle avant Jésus-Christ, faisons un petit bond en avant, et nous allons arriver à la conquête romaine, à l'arrivée des Romains. C'est déterminant parce qu'il y a une révolte des Juifs contre les Romains, et il y a une répression romaine assez sanglante, assez brutale, et même humiliante. Et c'est une répression donc, qui va marquer l'histoire de Jérusalem et l'histoire du peuple juif en général.
Alors, il n'y a pas une révolte des juifs contre les romains. Hein. Il y a une révolte de certains juifs, ce qu'on appelle les zélotes, ou les sicaires, enfin, ils ont plein de noms. On va dire ceux qui sont très très orthodoxes, très très puritains, très très littéralistes. Enfin bon, il y a des tonnes de livres là-dessus. Et puis, il y a toute une partie de la communauté juive hein, qui s'accommode plutôt de la souveraineté romaine, qui collabore, pourrait-on dire, hein, qui travaille dans cette administration, etc. Donc il y a des dissensions internes hein, au judaïsme, aux différents judaïsmes. Et la révolte, notamment la révolte de 70, hein, celle qui va conduire à la destruction du second temple.
70 après Jésus-Christ, donc l'arrivée des Romains voilà. Correspond à peu près, coïncide avec la naissance du christianisme.
C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a des chronologies qui se croisent, c'est-à-dire que l'historien ne peut que constater que, a priori, un rabbin qui s'appelait peut-être Jésus de Nazareth a sans doute évolué dans le chantier du second temple d'Hérode, et l'épisode des marchands du temple se passe sans doute au milieu d'un vaste chantier. ce qui peut expliquer des choses d'ailleurs. Ce second temple d'Hérode, en fait, n'aura duré que quelques décennies, parce qu'on sait que le chantier est terminé à peine 10-20 ans avant la destruction de 70. Et effectivement, la destruction du temple, celle de 70, en fait, va fonctionner comme un motif aussi rétroactif. On revient à la question du témoignage et de la reconstruction. On va rétroactivement dater la destruction du premier temple, celle de 586, en fonction de la destruction de 70. Alors, ça tombe le même jour dans le calendrier hébraïque. C'est extraordinaire. C'est évidemment une rétrodatation. Donc vous voyez comment il faut être très très attentif. C'est-à-dire que c'est la date de la destruction de 70, qui pour le coup est historiquement documentée, qui va rétrodater la date de la destruction du premier temple de 586, pour que ça tombe le même jour, Tisha B'Av, hein, le jour des lamentations de la destruction du temple. Donc vous voyez, il y a des jeux d'écho dans l'histoire de Jérusalem, et on pourra en voir tout le temps dans l'histoire, où des dates postérieures viennent rétrodater des dates antérieures, pour construire un petit peu des continuités.
Alors Tisha B'Av, c'est le 9...
Tisha B'Av, c'est le 9 du mois de Av.
Av, c'est août.
Oui, bien d'accord. Tout à fait. Et c'est dans le calendrier hébraïque le jour où on commémore la destruction des temples, finalement, la première et la seconde.
Que ce soit clair, parce qu'on parle du premier temple, du deuxième temple, du troisième temple, je ne sais plus très bien. Que sont ces temples successifs et leur destruction et à quoi ça correspond exactement ?
Alors, le premier temple, a priori construit par un certain Salomon, hein, aux alentours de moins 1000, moins 900...
Le fameux roi Salomon.
Le fameux roi Salomon, est détruit en moins 586 par les troupes de Nabucodonosor et reconstruit en fait très très rapidement après, dans les années 530, par les Perses, avec des financements perses, les Perses qui libèrent les Juifs qui sont en exil à Babylone, tout le monde connaît cette histoire, et qui leur dit de revenir à Jérusalem pour reconstruire le temple. Donc, le premier temple, il existe de à peu près moins 900, on va dire, à 586, et puis le second temple, il est reconstruit assez vite, à partir de 530, mais il est magnifié par Hérode, le roi Hérode, qui est un vassal romain, au tournant de notre ère, hein, donc à peu près au moment, à l'époque de Jésus, ce second temple, celui qu'on, pour le coup, qui est assez bien documenté, splendide, avec des marbres blancs, avec de l'or, etc., et qui est détruit en 70, définitivement, par les troupes de Titus. Pour ce qui est du temple, c'est fini, il n'y en a plus. Quand on parle aujourd'hui du troisième temple, c'est un projet, c'est un horizon, c'est un, oui, c'est une projection politique, mais il n'y a plus de temple juif à Jérusalem depuis 70 de notre ère.
Est-ce que ces temples sont attestés ? Est-ce qu'on a des traces archéologiques ? Est-ce qu'on est certain de leur existence et de l'endroit où ils se trouvent ? Il y a des rumeurs qui courent que ces temples n'existeraient pas, qu'on n'a jamais retrouvé de traces. Qu'en est-il exactement ?
Ouais. Yasser Arafat, c'est pas là qu'il s'est le plus illustré. Il commettait une grande erreur en fait en remettant en cause l'existence éventuelle historique des temples juifs. Le second temple est parfaitement attesté, à la fois sur le plan documentaire et sur le plan archéologique. Il est attesté par des... Enfin, je veux dire, ou alors rien n'est attesté, ou alors le Parthénon d'Athènes n'est pas attesté non plus. Et donc le second temple est parfaitement attesté. Le premier, non. Il n'y a pas de trace archéologique du premier. C'est logique, il est en dessous et on n'a jamais pu fouiller. Il n'y a jamais eu de fouille véritable sous le mont du temple pour des raisons évidentes. Mais il n'y a aucune raison de penser que le second temple n'a pas été reconstruit sur le premier. Il y a là ce qu'on appelle en fait une acropole. Hein, le mont du temple, l'esplanade des mosquées aujourd'hui, quand vous voyez la ville, c'est une acropole. Hein, c'est une petite colline hein, qui surplombe légèrement la ville. Et dans la géographie urbaine de cette époque, les temples, on les construit généralement en hauteur, vers l'est, hein, donc vers le levant, et ça correspond tout à fait. Donc il n'y a aucune raison de penser que le premier temple n'était pas là. Par contre, c'est vrai que le premier temple, on ne sait pas à quoi il ressemblait. On n'en a que des attestations textuelles, hein, et donc, encore une fois, sans doute remanifiées par les textes. Thank you.
Le berceau de l'histoire.
Alors, on est au moment de la naissance du christianisme. Jérusalem devient également une ville sainte pour les chrétiens. Donc, il y a deux saintetés qui se superposent. Et arrive une troisième. Alors, on va faire un nouveau bond en avant. Autour de 622, donc quelques années plus tard, ce sont les conquérants musulmans qui arrivent à Jérusalem. Et Jérusalem devient également une ville sainte pour les musulmans. Alors ma question est simple, est-ce que Jérusalem devient une ville sainte pour les musulmans parce qu'elle était déjà sainte pour les juifs et les chrétiens, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans l'islam qui lui confère cette sainteté?
Il y a quelque chose de particulier, mais elle devient une ville sainte islamique parce qu'elle est une ville sainte chrétienne et juive, c'est évident. Et d'ailleurs, la prophétie de Mahomet, en bonne prophétie, s'inscrit dans la continuité des prophéties précédentes. Et Mahomet va jusqu'à faire un voyage nocturne pour aller voir les prophètes précédents et d'une certaine manière se raccrocher à cette ligne de prophétie. Mais ce qui est intéressant à la fois dans le processus de christianisation de Jérusalem à l'époque byzantine et dans le processus d'islamisation de Jérusalem à partir de la moitié du 7e siècle, c'est que les traces de l'histoire juive sont encore très très présentes. Les premiers pèlerins chrétiens au 4e siècle, je pense aux pèlerins de Bordeaux par exemple, dont on parle dans la BD, ne visitent pratiquement que des lieux saints juifs. Et pourtant on est au 4e siècle. Finalement, la christianisation de Jérusalem, elle va être véritablement accomplie quelques décennies avant la conquête islamique. C'est à la fin du 6e siècle, début du 7e siècle, que là, véritablement, on a une géographie chrétienne qui est bien en place. Ça a pris du temps, hein, ça a pris 3-4 siècles. Et puis, l'islamisation, c'est un petit peu pareil. Les récits que l'on en a, alors témoignages, reconstructions, le récit de fondation de la première mosquée de Jérusalem, du premier lieu de prière, est extraordinaire. C'est un dialogue entre le calife Omar et le rabbin Abou Isaac, rabbin yéménite, converti à l'islam, plus ou moins converti à l'islam, en tout cas bon, très juif, encore très juif.
Ce dialogue, nous le connaissons par les historiens musulmans.
Bien sûr, oui, oui, et c'est peut-être une reconstruction, mais c'est d'autant plus intéressant. C'est-à-dire que la tradition musulmane ne masque pas du tout les origines juives de cette refondation. Et donc ce dialogue entre Omar et Abou Isaac, Omar demande à Abou Isaac où est le rocher d'Abraham, d'Ibrahim, où Abraham a failli sacrifier son fils. Abou Isaac tend son bâton et lui montre immédiatement. C'est toujours la figure du juif à Jérusalem, c'est toujours celui qui se souvient, celui qui sait. Il lui montre le rocher. Et Omar lui répond, alors où devons-nous construire la maison de prière? Et Abou Isaac commence par lui répondre, eh ben, on n'a qu'à la construire exactement là, et ainsi la prière vers Moïse rejoindra la prière vers Mahomet. Et Omar lui aurait répondu, non Abou Isaac, tu imites encore le judaïsme, nous devons créer une nouvelle religion. Nous allons donc créer cette maison de prière, ce qu'on appellera plus tard une mosquée, au sud du rocher d'Abraham, c'est bien là où elle est aujourd'hui, hein, la mosquée Al-Aqsa, au sud, nous allons prier vers le sud, vers la Mecque, comme nous l'a indiqué Mahomet tardivement, mais donc nous allons d'une certaine manière tourner le dos au rocher d'Abraham. Ce rocher d'Abraham, nous allons le magnifier, nous allons lui construire un dôme, le dôme du rocher, qui est toujours en place aujourd'hui. Le plus ancien monument islamique conservé au monde, c'est le dôme du rocher, qui est construit à la fin du 7e siècle. Mais d'une certaine manière, ce dôme, il est là pour faire mémoire de la religion abrahamique, mais on construit au sud une mosquée qu'on appellera plus tard la mosquée Al-Aqsa, la mosquée lointaine, et on y prie vers le sud, donc vers la Mecque, une nouvelle religion qui s'appelle l'islam. Donc vous voyez, on a toujours ce tuilage, que ce soit dans le christianisme ou dans l'islam, entre des traditions juives qu'il faut respecter, parce qu'on doit s'inscrire dans une filiation, et une refondation dont il faut affirmer la radicale nouveauté.
Alors, c'est très intéressant. Omar est donc le deuxième calife de l'islam. Donc, il a connu le prophète, c'est un des compagnons du prophète. Donc, la construction, on en reparlera encore une fois, parce qu'aujourd'hui, c'est l'objet de tous les conflits et de toutes les convoitises. Et donc, la construction de la mosquée Al-Aqsa, c'est bien Omar, parce qu'il y en a qui disent que ce n'est pas Omar qui a construit les mosquées, mais le calife Omeyyade Abdelmalak, plusieurs années plus tard, et que c'était une vraie volonté de mainmise politique et d'orientation d'une nouvelle religion.
Oui, il est même tout à fait possible, ce qu'on raconte dans la bande dessinée, il est même tout à fait possible qu'Omar n'ait jamais été à Jérusalem. C'est mon hypothèse, et c'est l'hypothèse des historiens maintenant les plus sérieux, c'est que Omar, en fait, si ça se trouve, n'était pas à Jérusalem, mais plutôt du côté d'Elat. Parce que il faut savoir que les musulmans à l'époque appelaient Jérusalem de son nom romain, Ilia. Et voilà, il y a de fortes chances de penser qu'Omar n'était pas à Jérusalem. Mais c'est pour ça, il faut à chaque fois faire la part. On ne peut pas écarter les mémoires ou les légendes ou les mythologies à Jérusalem d'un revers de la main. Moi, je suis historien, je pourrais dire, bon, bah, si Omar n'y était pas, ce n'est pas la peine de raconter. Mais si c'est la peine de raconter, parce que la légende de la présence d'Omar à Jérusalem, au moment de la conquête en 638 et de ce fameux dialogue avec Abou Isaac, comme vous l'avez dit, va fonder des revendications bien concrètes, des constructions, des guerres, des empires y compris. Donc, la mémoire, la légende, le mythe fabriquent de l'histoire à Jérusalem. C'est assez délicat de distinguer les deux. Mais vous avez bien raison de citer le seul personnage historique, pour le coup, attesté, Abd al-Malik, Omeyyade, donc représentant de cet islam des premiers temps, un islam encore très hellénique.
Hein. C'est plusieurs dizaines d'années après Omar.
Plusieurs dizaines d'années, mais enfin, c'est 685, le début de la construction du Dôme du Rocher, et Omar, on est en 638. Donc, on est 45 ans après. Vous voyez, on est quand même dans des temps très, 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 très proches. Les Omeyyades, c'est un islam encore très hellénisé. Hein. C'est la sublime mosquée des Omeyyades à Damas. C'est le palais d'Hicham près de Jéricho. C'est le Dôme du Rocher, à Jérusalem, richement décoré. Et c'est sans doute effectivement la mosquée Al-Aqsa, en tout cas dans sa première version.
Le temps passe vite. Nous poursuivrons notre conversation avec l'historien Vincent Lemire demain sur Jérusalem. Cette émission est réalisée par Vanessa Rovinsky. Merci à vous de l'avoir écoutée et à demain.